Autre radio, autre culture, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Patrice Lazareff, bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Bouillot.
Bonsoir.
Et une petite nouvelle, Marie Niquet, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous parlons loi Hadopi. Alors, au lendemain de cette loi qui a été adoptée par nos politiques, on en est où ?
Ah, on en est où ? Depuis la dernière fois qu'on en a parlé, parce que c'est là la nouvelle version de la loi Hadopi, qui est toujours en cours à l'heure où nous parlons d'études par le Conseil constitutionnel, mais on peut l'estimer adoptée, pratiquement promulguée. Il est assez probable que c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, ça a l'air d'être la tendance actuelle. Et donc, je crois qu'il y a deux directions importantes qui se font jour. D'un côté, au niveau des citoyens, quelque chose qui me paraît être un événement assez important, parce que dans une trentaine de pays, se constituent, à l'image de ce qui s'est passé en Suède, des partis qui prennent le nom de partis pirates, mais qui ne partagent que le nom avec les pirates, puisque la volonté est quand même de créer des partis politiques qui s'inscrivent dans le jeu démocratique de manière tout à fait traditionnelle et non pas de façon pirate, contrairement à ce que le nom pourrait suggérer. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose importante, c'est une légère modification, pas forcément de la stratégie, mais du discours des industries culturelles, et en particulier où là on voit que les producteurs se mettent un petit peu au second plan, je trouve, par rapport aux sociétés de gestion de droits qui, elles, reprennent le flambeau pour réclamer des choses et commencent déjà, avant même que cette loi ne soit promulguée, finalement à annoncer son échec et à réfléchir sur des contre-propositions, des propositions alternatives, parce que même si dans le discours elles ne disent pas que ça va être un échec, la façon diplomatique de le présenter, de dire on n'est pas sûr que ce soit très efficace, et dans le cas où ce ne serait pas efficace, ça serait bien d'avoir une autre solution qui est celle sur laquelle travaille, c'est le troisième et dernier point, finalement, la commission Zelnick, pour proposer ce qui semble être, tout le monde pousse dans le sens d'un système de taxation des fournisseurs d'accès à Internet pour compenser les prétendues pertes des industries culturelles.
Cette fameuse licence globale, finalement.
Alors non, parce qu'il y a toute une nuance là-dessus, parce que la licence serait quelque chose qui, finalement, donnerait une autorisation aux internautes d'échanger des fichiers en dehors d'une activité commerciale. Simplement, le partage tel qu'il se pratique finalement et tel qu'il n'est pas possible manifestement de l'endiguer. Alors que la taxation des fournisseurs d'accès laisserait la loi répressive, la riposte graduée en vigueur, c'est-à-dire que les internautes continueraient de ne pas avoir le droit d'échanger des fichiers, mais considérant qu'on ne peut pas l'empêcher totalement, on mettrait les fournisseurs d'accès à l'amende en leur demandant de verser une contribution à ce qui est présenté comme étant un manque à gagner pour les industries culturelles du fait de cet échange qui reste interdit mais qu'on n'arrive pas à empêcher. Donc il y a là une nuance qui n'est pas forcément au goût de tout le monde puisque les internautes et les mouvements qui les représentent sont éventuellement assez favorable à l'idée d'avoir le droit d'échanger des fichiers, mais continuer de ne pas avoir le droit de le faire tout en payant, parce qu'il est fort probable que les fournisseurs d'accès répercuteront les sommes qui leur seront réclamées sur leurs abonnements, et endossant ainsi le mauvais rôle tel qu'on leur présente, hein, puisqu'on dit qu'ils ont fait leur succès commercial sur le fait de proposer un accès facile à la musique et aux films. Donc du coup, finalement, c'est eux qui se retrouveraient, oui, un petit peu avec le rôle le moins favorable dans l'histoire, dans le cas où on pourrait dire, ah ben, vous voyez, c'est eux qui choisissent, ils sont libres de ne pas répercuter ça sur leurs abonnements, mais s'ils le font, où les vilains ?
Donc rien n'est abouti, finalement, au niveau de cette loi, et tout est encore en discussion, finalement. On pourrait en revenir dessus ou pas ?
Oui, ça, il y a jamais rien qui oblige le législateur à ne pas revenir sur sa décision de la veille. À un moment donné, là, c'est vraiment du domaine de la conjecture, donc j'ai pas d'opinion toute faite sur la façon dont ça pourrait disparaître. Ça pourrait simplement tomber aux oubliettes, parce que lorsqu'on voit par exemple la loi de 2006 sur les droits d'auteur, droits voisins dans la société de l'information, qui était cette loi qui était centrée au niveau des mesures techniques sur les DRM et les autres mesures techniques de protection, au moment où la loi est finalement entrée en vigueur, les acteurs de l'industrie du disque eux-mêmes ont abandonné Les DRM, donc la loi existe encore, elle est toujours là, mais concrètement, elle ne produit pratiquement aucun effet.
Ce n'est pas le problème de ces nouvelles technologies qui vont très 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 vite. Et à chaque fois, finalement, les politiques sont toujours très en retard par rapport à ce qui se passe sur le moment.
Alors ça, c'est un grand débat qui dépasse largement finalement le cadre d'Internet et de la musique, parce que ça pose finalement la question jusqu'où la loi doit-elle définir les choses dans le détail. Et on peut repenser aux auteurs du Code civil qui mentionnaient que la loi est une chose qui doit s'écrire d'une main tremblante, en se contentant finalement de définir des grands principes plus que d'aller rentrer dans le détail. Mais depuis un certain nombre d'années, on a cette manie de vouloir régler absolument chaque chose dans son détail. Et du coup, effectivement, on se heurte à des intervalles réguliers de plus en plus fréquents sur ce genre de situation et un peu de non-sens.
En réaction à ce type de loi qui, visiblement, a l'air de se répercuter dans toute l'Europe, est-ce vrai ?
Alors, c'est ce qu'on nous dit. C'est loin d'être fait partout. L'Angleterre a un projet dans ce sens-là. Il y a encore aujourd'hui même 18 députés britanniques qui ont signé un appel pour faire remarquer le caractère futile. C'est le mot qu'ils ont employé en anglais. Mais je ne suis pas sûr que la traduction française de futile soit la bonne. Mais le caractère inutile, en tout cas, du principe même de couper l'accès à Internet, ou ne serait-ce parce que les Anglais avaient cette proposition de dire on va peut-être pas le couper, mais on va réduire le débit et refermer un petit peu le robinet des internautes qui échangent trop. Donc ça n'est pas passé. Et je constate d'ailleurs que les artistes britanniques sont beaucoup plus engagés que ne semblent l'être nos compatriotes dans ce domaine. Et je crois que c'est assez dommageable, parce que il y a finalement, les artistes ont, à mon avis, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire entre le moment où cette loi Hadopi va être promulguée et le moment où, d'une manière ou d'une autre, on va constater son échec partiel ou total, là, il y a un espace qui s'ouvre pour les artistes, qui est un espace de négociation, parce qu'on parle beaucoup de la collecte. Finalement, tous les débats qui sont en train de se mettre en place sont ceux de dire comment est-ce qu'on va collecter des sommes. Est-ce qu'on va, comme on le disait tout à l'heure, taxer les fournisseurs d'accès, mais sans donner le droit aux internautes d'échanger? Est-ce qu'au contraire, on va plus vers une licence globale, c'est-à-dire accepter qu'un internaute devienne comme une station de radio, comme le restaurant du quartier, quand il met de la musique, bien, tous les mois, il paye quelque chose pour ça, qui va directement, là, pour le coup, dans la poche des sociétés de gestion de droits? Quelle va être la solution retenue? Et tout le débat, donc, se concentre plus sur la collecte, qui, d'une manière ou d'une autre, ne va pas forcément poser beaucoup de problèmes techniquement. Mais pendant ce temps, on ne discute pas de la répartition. Et il y a peut-être, je crois, là, une carte à jouer pour les artistes de vraiment prendre une position dans le débat, ou de prendre une place et de venir occuper une place dans ce débat-là pour dire, bon, ben, collecte, très bien. Si collecte supplémentaire il doit y avoir, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour rediscuter un peu de la répartition? Parce qu'il y a des artistes aujourd'hui qui décident volontairement de placer leur création sous des licences, soit des licences libres, des licences Creative Commons, c'est-à-dire de choisir de permettre aux internautes justement d'échanger leur création. Et ces artistes-là ne sont pas pour l'instant pris en compte par les sociétés de gestion, parce que ça devient un petit peu un casse-tête à la fois juridique et technique. Et donc là, il y a un débat à ouvrir, qu'on refuse un peu d'ouvrir, et je trouve donc dommage que les artistes n'en profitent pas pour poser ces questions-là.
Alors justement, tu fais le pendant d'une réflexion de Bernard Murat, qui est directeur du théâtre Édouard VII. Et c'était par rapport à l'opposition des socialistes à la loi Hadopi, et lui était justement pour cette loi Hadopi. Et dans Le Monde du 9 mai 2009, il disait « La licence globale, ça ne marche pas. On sait collecter l'argent, mais pas répartir l'argent de façon équitable. Et vous ne trouverez pas un artiste satisfait par le système. » Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas aussi face à deux types d'artistes, c'est-à-dire ceux qui sont les gros bénéficiaires de la SACEM, donc on le sait, moins de 6% des bénéficiaires, à peu près, oui c'est ça, ça représente 6% des inscrits de la SACEM, et puis tous ceux qui sont musiciens, qui sont artistes, qui sont compositeurs, qui, eux, ne touchent pratiquement rien et qui aimeraient justement avoir ce libre-échange sur Internet. Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas justement face à ces deux types d'artistes ? L'un gagne beaucoup d'argent, l'autre ne gagne pas ou gagne très peu. Et donc, il y en a un dont la voie par Internet leur est difficile, c'est du manque à gagner. Et les autres, au contraire, ça leur permet de gagner de l'argent.
Alors, c'est vrai que sur le manque à gagner, je crois que déjà dans la situation actuelle, il y aurait des questions éventuellement à se poser, puisque en gros, d'après les chiffres de l'INSEE, l'ensemble de ce que rapporte la culture au sens large, c'est-à-dire pas seulement la musique, le cinéma, enfin vraiment tout l'ensemble de la culture en France représente à peu près 43 milliards d'euros chaque année, sur lesquels reviennent aux artistes et aux créateurs 300 millions d'euros, c'est-à-dire 0,7%. De cette somme-là. Donc déjà, sans rien changer et sans parler d'Internet, on peut se poser des questions.
Mais quand tu parles culture, ça veut dire un budget
Le budget d'ensemble, oui, de tout ce qui fait partie d'une activité culturelle au sens le plus large possible.
Parce qu'il n'y a pas que les musiciens.
En France, oui, il n'y a pas que les musiciens. Il y a le théâtre, il y a les musées, il y a les expositions, il y a les concerts, il y a tout un ensemble de manifestations.
Il y a les archéologues.
Donc voilà, donc cet ensemble-là, ça rapporte en France, chaque année, ça génère 43 milliards d'euros. Il y en a 300 millions qui sont reversés aux artistes. Ça, c'est des chiffres de l'INSEE.
Bah, c'est déjà pas mal.
Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est 0,7% qui reviennent aux artistes sur cette chaîne de valeur. Maintenant, effectivement, la question qui se pose, c'est lesquels ? Parce qu'il a été, pendant longtemps, il était effectivement nettement plus pratique et plus avantageux pour tout le monde d'avoir un système de gestion collective. Très probablement encore le cas aujourd'hui, et peut-être même pour demain. Mais il est vrai que Internet apporte une chose absolument fondamentalement nouvelle qui est reconnue même par la SACEM. J'entendais il y a quelques semaines, lors d'une journée, une réunion qui a eu lieu au Sénat, Thierry Desurmont, qui représentait la SACEM et qui expliquait qu'un nouveau problème auquel ils sont confrontés, c'est que jusqu'à présent, en tant que société de gestion collective des droits, il n'était confronté qu'à des partenaires institutionnels. C'était en gros les diffuseurs, les producteurs, les éditeurs. Ça permettait d'avoir un discours. C'était la négociation de droits, finalement, se faisait entre grosses entreprises, entre guillemets, ou entre structures importantes, composées de professionnels qui n'avaient pas trop de mal à se comprendre et à s'entendre. Maintenant, Internet apporte une chose nouvelle, c'est qu'il faudrait justement gérer toute une foule de personnes et d'acteurs dans ces questions-là, qui arrivent là, qui ne sont pas forcément tous très informés, qui ont plus ou moins tous, c'est ce que me disait une personne de la SACEM aussi récemment, beaucoup d'artistes ont toujours l'impression d'être lésés, alors qu'il est vrai que la SACEM fait un travail très minutieux sur la répartition à la seconde, sur des œuvres de son répertoire. Donc il y a énormément de travail derrière. Donc bon, du point de vue de la SACEM, les artistes ont toujours l'impression de ne pas avoir assez. Mais il n'empêche que face à ce changement de paradigme que représente Internet, c'est vrai que quand on lit les statuts et les règlements généraux de la SACEM ou de la SACD, qui fonctionnent un petit peu sur le même modèle, on constate en effet que pour être éligible à une fonction de direction dans un organisme comme celui-ci, il faut en être un des principaux bénéficiaires. On peut comprendre le bien fondé de cette situation-là à un moment donné, mais c'est vrai qu'en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que nécessairement, c'est un type d'institution qui va avoir, on va dire, une certaine difficulté à se réformer, puisque d'après ses propres statuts, les personnes qui peuvent arriver à la direction, donc qui seraient susceptibles de lancer la réforme, sont ceux qui ont le moins intérêt à ce que le système change. Donc là, c'est vrai qu'il y a une chose un petit peu complexe, et c'est sans doute ça qui est à l'origine de ce clivage qu'on a pu voir entre des artistes effectivement bien installés qui ont du mal à voir cette évolution, à voir les aspects positifs de cette évolution, et puis d'autres qui, au contraire, mais c'est cela, quand je disais qu'on n'entend pas assez, je pense particulièrement à ces artistes-là qui, à un moment donné, auraient peut-être intérêt à s'inviter un petit peu dans ce débat-là et à poser la question de la répartition.
Des questions ?
On a des outils techniquement pour mesurer les audiences qui sont faites, enfin les les fichiers particuliers qui sont échangés, qui sont lus sur les ordinateurs, de façon à permettre une répartition des droits un peu plus équitable, justement. Savoir que l'artiste X a été écouté ou échangé 200 millions de fois, alors que l'artiste Y l'a été 3 millions de fois. Enfin, ça pourrait rentrer, ça, dans le partage, dans les rétributions qui seraient accordées à chaque artiste. Et est-ce que techniquement, on peut le faire? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est jouable?
Alors techniquement, oui, il y a déjà des systèmes qui existent. Apple a récemment introduit dans iTunes une petite fonction qui s'appelle Genius, qui, telle qu'elle est présentée, a pour but d'analyser donc ce qu'on écoute et dans le but de proposer des artistes qu'on pourrait aimer. Donc typiquement, Apple, qui a déjà 70% du marché de la vente de fichiers audio numériques, là, donc sait ce qui se vend. Avec ce système-là, on peut aussi savoir ce qui s'écoute, puisque malgré tout, je crois que la totalité des morceaux, Steve Jobs avait annoncé à un moment donné que la totalité des morceaux vendus sur l'iTunes Store représentait 3% de la capacité de stockage des iPods vendus. Donc il y a 97%, ou peut-être un peu moins maintenant, mais 90%, c'est comme la matière noire dans l'univers, c'est un peu, on ne sait pas ce que c'est. Donc avec ce système-là, là, Apple peut savoir ce que les gens écoutent, en plus de savoir ce qu'ils achètent. Et il y a d'autres sociétés qui font ça, par exemple Last.fm, qui est un site que personnellement j'aime beaucoup, qui depuis le début a pris le parti, et je crois que ça, c'est dans ce sens-là que c'est une voie d'avenir qui consiste à, d'une certaine manière, restaurer et rétablir une confiance entre les différents participants à ces échanges-là, que ce soit les producteurs, les artistes et le public. Et Last.fm fait une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que le petit logiciel qu'il propose au téléchargement qui existe pour tous les lecteurs MP3 sur ordinateur, ça fonctionne même avec un iPod, est un logiciel open source. Donc on sait et on peut avoir avec ça la certitude, étant donné qu'il distribue directement le code source du logiciel, donc qui a compétence pour le lire peut facilement s'apercevoir qu'il n'y a pas de système à l'intérieur qui va donner les informations qu'on ne souhaite pas donner, qui garantit l'anonymat. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Moi, je me suis inscrit sur le site Last.fm en 2005. À l'époque, il n'y avait même pas besoin de donner son adresse email pour s'inscrire sur ce site. Donc, ils ont fait l'ensemble de leur site est fondé sur cette transparence et qui est, je crois, une chose qui est très appréciée aujourd'hui et dont, dans les réflexions qui sont faites, j'ai lu récemment que Daniel Schneiderman de Arrêt sur Image a rendu public ses réponses au fameux questionnaire de la commission Zelnick. Et il a mis ça vraiment comme point très important, d'avoir une transparence totale de ce qu'on fait avec les informations des internautes. Et donc là aussi, Last.fm constitue, avec le recul maintenant, une base de données complètement merveilleuse de ce qui est écouté dans le monde par des millions de personnes. Donc c'est vrai qu'en multipliant ces outils-là, je pense qu'il y aurait effectivement facilement moyen d'arriver à savoir un peu ce qui est changé, sachant qu'après, il y aurait sans doute, si ce système-là en même temps était officialisé, bon, évidemment, il y aurait des systèmes, des astuces de tricherie, pour des petits programmes qui feraient croire qu'on a écouté telle chanson 2000 fois en 5 minutes. Mais bon, ça, je pense qu'il y aurait aussi des moyens pour le détecter. Donc la technique, à ce niveau-là, n'est pas un problème si elle est ouverte. La technique, finalement, c'est un des enseignements de ces dernières années, de ces lois successives depuis 2006, et c'est à mon avis aussi sans doute que justement, lorsque la technique est fermée, lorsqu'on essaye d'empêcher les gens de faire quelque chose, ça se passe pas très bien, alors que si on s'adresse à eux sur un pied d'égalité, je dirais, sans se foutre de la gueule du monde, pour reprendre une expression à la mode, là on peut obtenir des résultats bien plus positifs.
Il y a un livre qui va bientôt sortir, qui est alors In Libro Veritas, qui édite La bataille à Dopi. Ils font une conférence le 29 octobre au Fouquet's, et donc on peut y aller. Les gens peuvent s'inscrire sur Internet et y aller. Qu'apporte ce livre? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau finalement?
Ah, alors ça, on le saura quand on verra ce qu'il y a dedans. Mais je crois que ce qui est marquant, justement, en parlant de cette confiance rétablie, je trouve que ce livre-là s'inscrit dans ce qui pourrait être finalement le modèle économique qui, d'une certaine manière, est celui qui semble être celui du bon sens, qui est que d'un côté, la partie vraiment texte du livre, qui est une compilation de différents moments. Il y a, je crois, une quarantaine d'auteurs qui ont collaboré pour soit reprendre des textes qu'ils ont eus au fil du temps, au fil de cette bataille-là, c'est la bataille Adopi, soit des textes écrits pour l'occasion. Et donc, la partie vraiment texte va être disponible en libre téléchargement au format PDF, écrite et diffusée sous licence Creative Commons, donc avec un droit de partage. Et puis, il y a trois objets physiques, finalement, de qualité croissante, qui vont être proposés à la vente. Le simple livre, je crois, pour un prix de 9 euros. Et ensuite, deux versions du merchandising ou des goodies, avec la version haut de gamme où le livre est imprimé sur du très beau papier dans un format plus grand, avec un t-shirt, avec des marque-pages, avec un CD-ROM ou un DVD qui reprend les textes, qui reprend des présentations. Et je crois que ça, c'est là, on a un parfait exemple, justement, d'une diffusion gratuite qui se fait pour les personnes qui sont simplement intéressées, qui n'auraient pas forcément envie d'acheter l'objet, mais qui veulent quand même savoir ce que ça contient, parce que c'est un moment d'histoire dans le début, finalement, de tous les nouveaux problèmes qu'apporte Internet, mais au même titre que la radio, la télévision et le simple principe de l'enregistrement a posé des problèmes quand c'est arrivé. Comment, au départ, quelles ont été les solutions retenues? Finalement, ça fait une espèce de photographie d'un instant ou de quelques années. Et puis après, pour ceux qui ont envie d'avoir plus, d'avoir quelque chose à offrir, parce qu'en même temps, la sortie fin octobre, ça c'est parfait, ça peut faire un très joli cadeau pour Noël. Je crois qu'il n'y a pas de honte non plus à avoir une démarche commerciale qui s'inscrit à côté d'une démarche de diffusion, de savoir, d'idées, d'opinions. Ça me paraît un très bon exemple qui rejoint un petit peu ce que font déjà des artistes musiciens, pour le coup, comme Nine Inch Nails ou Radiohead, avec toujours le bémol qu'eux ont été connus avant. Encore un autre...
Tu as participé à la publication?
Non, pas du tout. Non. Je n'étais pas au courant. Cette chose-là, je l'ai découvert aujourd'hui même.
Alors maintenant, je voudrais qu'on passe au problème des pirates. Enfin, je veux dire, de ces fameux parties pirates. Et tu nous parlais tout à l'heure de Pirate B, de ce procès qui a lieu en Suède, c'est ça?
Oui.
Et j'aurais voulu que tu nous résumes un petit peu ce qui s'est passé là-bas.
Oh, ce qui s'est passé là-bas au niveau du parti pirate, oui. Pas au niveau du procès de The Pirate Bay, qui est une histoire à rebondissement. L'appel est prévu pour le mois de novembre. Et justement, du fait de ce procès et des révélations successives, parce que c'est vrai qu'il y avait manifestement certains conflits d'intérêts qui se posaient là, ça a été un procès qui a été très médiatisé. Et en Suède, donc, ce parti pirate qui s'est constitué a décidé de se présenter aux élections européennes au mois de juin, et en défendant, sans programme détaillé réel, mais en défendant trois principes plus qu'un programme. Le premier, c'est réclamer une révision du droit d'auteur pour l'adapter aux nouvelles réalités techniques. Deux, profiter de la réforme du droit d'auteur pour réformer aussi le système des brevets, qui est un élargissement à la propriété industrielle de ce qu'est le droit d'auteur pour la propriété intellectuelle. Le parti pirate suédois, pour l'instant, le point de vue affiché est plus radical que ça, parce qu'il milite, je crois, véritablement pour une suppression des brevets. Personnellement, moi, ça me paraît aller un peu vite en besogne, donc je préfère parler de réforme. Et un troisième point qui consiste à faire aussi, à exercer une veille sur le respect des libertés individuelles sur Internet, puisqu'on constate quand même à différentes reprises qu'il commence à exister ce qui pourrait bien ressembler à une différence, à une inégalité de droit entre le citoyen physique que nous sommes tous dans notre vie de tous les jours et le citoyen numérique que nous sommes aussi sur Internet. Et on voit que sur Internet, on ne peut pas dire certaines choses, alors que, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, quand on dit « ou la menteuse » en parlant d'une femme politique, en prenant son café le matin, en lisant le journal, la police ne vient pas encore vous chercher dans le café pour vous emmener tout de suite au poste et vous expliquer que c'est de la diffamation, qu'il ne faut pas le faire. C'est le troisième point de veille de ce parti pirate. Et ce parti pirate suédois a cristallisé finalement beaucoup d'espoir, a réussi à obtenir un score absolument phénoménal de plus de 7% des voix aux élections européennes en Suède, ce qui lui a permis d'envoyer un député au Parlement européen. Je crois même qu'il y aura un deuxième député, puisque maintenant que les Irlandais ont validé le traité de Lisbonne, s'il vient à entrer en application, il y a une modification de la composition du Parlement européen qui devrait donner un député supplémentaire au parti pirate suédois. Et dans la foulée, ont émergé, dans une trentaine de pays maintenant, y compris en France, des partis pirates qui se fondent à peu près sur les mêmes valeurs et qui, non seulement chacun une démarche nationale dans leur pays respectif, mais en même temps gardent un contact plus ou moins étroit entre eux. Et on a vu comme ça en France à l'élection législative partielle du mois de septembre dernier dans les Yvelines, un candidat du Parti Pirate de France, Maxime Rouquet, 23 ans, ce qui est un âge à la mode aussi en ce moment, qui a réussi à avoir 2% des voix, cette législative partielle, alors qu'il avait, il n'y avait pas de budget, pas de tract, pas d'affiche, pratiquement pas de presse nationale ou de télévision nationale. Et quand même, c'est 470 voix qui se sont portées sur son nom. Et de manière plus significative encore, on observe le même score de 2%, mais là, à l'échelle d'un pays, c'était aux élections législatives en Allemagne, il y a quelques semaines. Et là, c'est 2% à l'échelle nationale d'un pays comme l'Allemagne, ça fait pratiquement 1 million de voix pour le parti pirate, 870 000 en fait, à peu près. Donc on voit que, contrairement à ce que disait Mme Albanel à l'époque, c'est pas 5 gus dans un garage, mais qu'on est au-delà d'un problème qui est lié spécifiquement à la musique, qui est lié spécifiquement à la fin du règne du compact disque. Et on entre plus véritablement, je crois, et c'est en ça que c'est un événement que je trouve marquant, on entre vraiment dans un problème de société et de savoir quelle société on veut construire finalement pour demain. Est-ce que on essaye d'utiliser Internet pour échanger du savoir, pour échanger de l'information, pour donner l'heure d'une certaine manière, ou est-ce que on reste dans un monde où, à chaque fois qu'on veut connaître l'heure, il faut acheter une nouvelle montre?
Oui, mais enfin, à chaque fois qu'on veut du pain, on achète un nouveau pain. C'est toujours pareil.
Oui, parce que fait, ça, c'est finalement,
les artistes, c'est vrai que
support.
Les artistes arrivent à en être lésés de cette affaire-là. Les artistes, je parle des écrivains ou autres. Parce que je veux bien l'amour de l'art en disant oui, je suis content que je sois lu, ou je suis content d'être entendu, d'être écouté, mais qu'est-ce qui va me permettre demain de manger?
Ça, c'est la bonne question à laquelle, oui, pour l'instant, manifestement, personne n'a de réponse. Moi, ce que je continue à penser, parce que là, c'est finalement la même chose a été dite quand la radio est arrivée, quand l'enregistrement est arrivé. C'est-à-dire qu'au départ, l'enregistrement se met en place, on a des techniques d'enregistrement donc pour capter un son. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller écouter une pièce en direct ou d'aller écouter un concert en direct, mais on peut le capturer, l'enregistrer. Mais les particuliers ne peuvent pas faire ça, ce sont des entreprises qui font ça. Et donc, il y a un circuit qui se met en place. Et puis, dans le même temps, dans les années qui ont suivi, il y a la radio, la télévision, qui est là, qui est l'autre aspect, qui n'est pas l'aspect reproduction, justement, mais qui est l'aspect exécution publique d'une œuvre, qui, là encore, fait entrer tout ce circuit-là dans une nouvelle époque. Et la radio a même ceci de particulier, après ça c'était dans les années 60-70, d'arriver avec la radio transistor. C'est-à-dire qu'avant la radio c'était un gros objet qu'on avait chez soi, on ne pouvait pas l'emmener avec soi, donc c'était une activité à part entière d'écouter la radio. Et puis avec le transistor on se retrouve avec un petit objet qui fonctionne sur batterie et qu'on peut emmener partout. Mais tout cela reste dans... Et c'est ce que soulignait finalement le représentant de la SACEM récemment. Tout ça reste dans une logique d'entreprise ou d'institution, puisque les diffuseurs sont les radios, sont les télévisions, c'est des gens qui peuvent échanger. Puis après arrivent finalement les deux grands chocs coup sur coup. Le premier dans les années 70 avec la cassette, ce qui était d'un seul coup, l'enregistrement peut devenir quelque chose de personnel. Je peux le faire moi, chez moi. Cette première chose, derrière l'enregistrement numérique, on se souvient aussi des batailles pour le DAT, à quel point, techniquement, devenait plus discutable sur le fait de dire les cassettes DAT, grand public, ne pourront pas enregistrer à 44,1 kHz, qui est la fréquence du CD, mais seulement à 48, comme ça, on ne pourra pas faire de transfert numérique, pas faire de clone. C'était pas très pertinent, et puis ça a plus tué le marché des cassettes DAT qu'autre chose. Et là, donc, c'était l'enregistrement fait par des particuliers. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à une étape suivante qui est la diffusion faite par des particuliers. Mais dans tous les cas de figure, et c'est là où je veux en venir, ce que nous apprend le passé, c'est qu'à chaque fois, effectivement, ça a été au départ une énorme inquiétude. voir des procès, voir le procès Universal contre Sony 1983 pour le magnétoscope, en disant ben non, le magnétoscope c'est quelque chose qui va tuer l'industrie du film. Bon, il faut l'interdire. Voir le même procès de, c'était pas Universal, mais c'était peut-être bien l'Association américaine des industries de l'enregistrement, pour le premier baladeur MP3, le Rio Diamond. Ça, c'était il y a quoi, même pas 10 ans, à peine. Il faut interdire cet objet-là. Et puis, à chaque fois, on constate quand même rétrospectivement que l'industrie des loisirs, du disque, du film, en est sortie grandie. Donc là, pour l'instant, je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas de réponse de dire bah, « gagner de l'argent demain avec Internet, voilà comment il faut faire ». Ça, pour l'instant, personne ne sait dire ça. Mais de là à freiner totalement des quatre fers, je pense qu'il y a une attitude intermédiaire qui, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment fait de jour, qui se cherche un peu, mais qui, je l'espère, va arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et c'est aussi là qu'un mouvement spontané d'un grand nombre de citoyens dans un grand nombre de pays, comme tous ces partis pirates qui sont en train de se mettre en place, peut favoriser au moins le dialogue. Parce que pour qu'on puisse avoir des idées, personne, je ne crois pas que quelqu'un pourra avoir une idée géniale tout seul dans son coin, la mettre en application et puis avoir raison contre tous. Je crois qu'à un moment donné, la seule solution passe par le fait d'établir une espèce de rapport de force institutionnel et de là arriver à un consensus qui évoluera et qui essaiera de se faire au bénéfice de tous.
Est-ce qu'on ne peut pas arriver à être au même diapason que ce qui se passe chez les scientifiques et les universitaires? C'est-à-dire que les scientifiques, universitaires ou CNRS et autres, écrivent des articles qui paraissent soit sur Internet ou dans des publications, qui, lorsque les publications sont payées par des éditeurs, c'est les éditeurs qui se font rémunérer dès que l'article apparaît sur Internet. Et ça coûte assez cher, d'ailleurs, l'article. En général, ça coûte pas 2 euros ou 3 euros. C'est du 10 euros à peu près l'article. Personne n'est payé au niveau de ceux qui ont écrit ces articles. Donc, puisqu'on dit que les scientifiques sont payés par l'État, en revanche, ceux qui ne sont pas payés par l'État, qui sont des chercheurs indépendants, eux, ils perdent tout. C'est-à-dire qu'ils ne récupèrent jamais de l'argent sur les articles qu'ils ont écrits. Tout est gratuit à chaque fois. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce même problème au niveau de la musique dans ces cas-là? C'est-à-dire que finalement, les seuls qui seront bénéficiaires, ce seront les éditeurs.
Je me demande si le problème n'est pas un peu inverse, parce que je crois qu'on constate souvent que la musique étant un domaine, et particulièrement la musique, là pour le coup dans les arts, vraiment la musique étant un domaine sans doute le plus fluide, parce que c'est très facile à échanger, et finalement on se retrouve à peu près toujours d'une certaine manière un peu à l'avant-garde des situations économiques et sociales, parce qu'effectivement ça pose... C'est la même question et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a tant d'insistance de la part des industries culturelles d'une part, mais un tel soutien d'un ensemble de gouvernements, voire même d'organisations internationales, pour préserver la vision actuelle de ce qui est la propriété intellectuelle, voire même l'étendre, puisque l'OMC travaille aujourd'hui sur des nouveaux accords sur la propriété intellectuelle, qui sont gardés plus que la recette de la bombe nucléaire. Et donc, très difficile de savoir à quelle sauce exactement on va être mangé dans les années qui viennent à ce niveau-là. Et je crois que précisément, ça rejoint un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur cette vision des deux sociétés possibles, c'est-à-dire que le danger que court la recherche et l'université aussi, c'est la marchandisation. C'est à un moment donné, on va arriver dans ce que d'aucuns appellent l'économie de la connaissance, mais quel modèle on veut pour cette économie-là? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement on essaye de trouver des solutions nouvelles en réformant le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, en l'adaptant et en finalement posant la question de ces droits-là, comment faire en sorte qu'on revienne à leur conception de base qui consiste à encourager la création, parce qu'il y a deux visions pour l'origine du droit d'auteur. La plus courante qui consiste à dire c'est un équilibre entre l'intérêt particulier d'un auteur, qu'il soit chercheur, musicien, écrivain ou autre, et l'intérêt général du public de cet auteur-là qui a priori vocation à accéder à cette information-là et à la culture. Donc il y a cette vision du point d'équilibre, mais en même temps il y a une autre composante importante du droit d'auteur qui est de dire c'est quelque chose qui est destiné à encourager la création. Et on voit, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'avec le temps, il y a eu une dérive qui tente à favoriser un petit peu ce qu'on peut appeler, même si c'est un peu caricatural, des rentes de situation, et qui se fait effectivement au détriment de ceux qui ne sont pas dans le système, ce qui est le cas des chercheurs dont on parlait à l'instant. Donc est-ce qu'on essaye de réinventer le modèle en faveur, on va dire, de l'intérêt général et de l'incitation à la création, ou est-ce qu'au contraire, on continue dans la voie de la propriété affirmée, c'est-à-dire qu'on considère tous ces échanges comme vraiment faisant partie du monde physique avec une notion de propriété encore même étendue, mais auquel cas, on va, à mon avis, clairement vers un système qui va être extrêmement censitaire, dans le sens où, effectivement, ceux qui pourront payer 10 euros pour avoir un article auront une bonne note et éventuellement obtiendront leur diplôme. Ceux qui n'auront pas eu accès à cette information seront peut-être moins bien notés. Dans quelles conditions on va éduquer les générations futures ? Parce que c'est aussi ces questions-là qui sont posées. C'est là où je crois que la musique a un rôle symbolique, d'une certaine manière, et tout ce débat-là. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que ça touche finalement tellement le public au sens large. C'est bien sûr l'affection qu'on peut porter à des artistes qui sont connus, mais c'est aussi derrière, je crois que tout le monde a une espèce de sensation, qu'il y a un débat beaucoup plus large sur, finalement, qu'est-ce qu'une idée ? Qu'est-ce que ça vaut, une idée ? Est-ce que ça n'a que sa valeur marchande ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la valeur marchande ? Est-ce que les choses qui ont de la valeur ont-elles un prix, finalement ? C'est ça la question.
Marie, artiste, quelle est ta position, toi, par rapport à cette loi Hadopi ?
Je pense que, dans tous les cas, par exemple, moi, je fais de la musique, donc on est indépendant. Donc, grâce à Internet, d'un côté, ça nous permet de se faire connaître par plein de monde, un peu partout, même par MySpace, etc. Donc, il y a plein de sites qui nous permettent de nous faire connaître. Donc, ça, c'est pas mal quand on n'est pas, quand on a un petit groupe. Mais par contre, ce qui se passe aussi, c'est. Maintenant, plus personne n'achète de disques. Donc, si on essaye de vendre des disques, ça va pas marcher. Donc, après, la seule façon, à mon avis, à cette heure-ci, de se faire de l'argent quand on est musicien et qu'on n'est pas vraiment très célèbre, c'est les concerts. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait jouer. Faire en sorte que les gens aillent de plus en plus aux concerts. Les artistes, à mon avis, vont faire beaucoup plus de tournées parce que c'est le moyen le plus simple pour eux de gagner de l'argent. Enfin, les gens viennent, donc ils payent la place de concert, mais ils peuvent aussi acheter des objets dérivés. Ils peuvent peut-être aussi se laisser tenter pour acheter un CD finalement après être sorti du concert, etc. Pour des artistes très célèbres, je pense que Internet, ça leur sert pas à grand chose pour se faire connaître, donc ils en ont pas besoin. Par contre, pour des artistes, des petits groupes, c'est vrai qu'Internet, ça peut beaucoup les aider, mais il y a une impasse quelque part, donc je sais pas ce qui est le mieux en fait.
Alors il est vrai, puisqu'on a eu pas mal d'artistes qui sont passés ici, que le fait qu'ils puissent faire des concerts leur permet de vendre des disques et de vendre beaucoup plus de disques que lorsqu'ils étaient distribués par des majors. Ils se sont aperçus que finalement, en vendant leurs disques dans les concerts, ça marchait mieux que lorsqu'ils étaient distribués et qu'ils faisaient moins de concerts. Donc c'est vrai
que... Ils prennent tout, la major peut-être prend pas... Enfin, y a pas de... La major prend pas une part énorme du prix du disque. Là, s'ils sont indépendants, ils prennent, entre guillemets, tout pour leur pomme. Peut-être ça aussi la différence des trucs. Maintenant, il y a quand même pas mal. Il y a une société, j'ai oublié le nom, qui maintenant propose aux artistes de se faire référencer sur les plus grands sites marchands, iTunes, Amazon, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'ils prennent quand même un pourcentage, mais tu leur confies ta musique et ils s'occupent de la placer sur tous ces trucs-là. Donc maintenant, n'importe quel artiste, entre guillemets, peut dire... sur son site internet, acheter ma musique sur iTunes. Et je pense que c'est quand même un gage de... Ça met en confiance les gens. Ils se disent, c'est bien, sur iTunes, on va, on clique, on achète. En un clic, on achète. On clique sur acheter, on valide et c'est fait. C'est pas cher. Enfin, c'est cher quand on y réfléchit, mais sur le coup, quand on a craqué pour l'artiste, qu'on va sur son site, qu'on arrive sur iTunes et qu'on voit l'album à 10 euros, on réfléchit pas si c'est impulsif, qu'il y a un espèce de truc qui s'est fait en revenant d'un concert, comme le disait Marie. On clique 10 euros, allez, c'est rien, c'est cool, on l'achète et c'est vendu, quoi. Voilà, ça peut être fait dans l'instant, Voilà, le jour, je suis allé au salon de la Hi-Fi, j'ai entendu un morceau incroyable, j'ai pris la référence du CD, je suis rentré, j'ai appuyé sur valider et je me suis fait avoir comme beaucoup, c'est-à-dire que j'ai payé un truc 9,99 ou 9,90 euros. pour une qualité qui n'est pas la qualité CD. J'ai pas de support, j'ai rien, mais j'ai pu écouter le soir Peinard, la musique qui m'avait fait vibrer l'après-midi sur un beau système d'écoute au salon. Et c'est un point fort de vendre de la musique sur ce type de support, je pense. Voilà, et maintenant il y a des sociétés qui proposent de le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient jusqu'à maintenant que c'était une punition de devoir dealer avec les gens de chez iTunes pour se faire référencer, on est trop petit, on nous prendra pas, etc., etc. Maintenant il y a des boîtes qui le font, qui garantissent le résultat. Bon, certes, qui vont prendre une commission ou quelque chose, c'est évident, mais au moins on peut se retrouver sur ces trucs-là, et je pense que c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est peut-être même une fenêtre ouverte encore plus grande que d'être à la Fnac ou chez Virgin ou chez les autres à l'époque, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Patrice.
Il est certain que la facilité est un atout. Dans ce cas-là, effectivement, on rentre, on ouvre le truc, le programme, on clique et on a les choses tout de suite, même avec bon, les lacunes qui, je l'espère, seront temporaires en termes de qualité audio. Là. Oui, voilà, oui, tout à fait. Mais ça rejoint ce que Marie disait sur les sorties de concert, par exemple, typiquement. Et moi, j'ai travaillé longtemps avec un groupe où même c'était les t-shirts qui passaient devant les CD à la sortie. Ils avaient un stand, ils ont fait une grande tournée partout en Europe. Il y avait un stand avec donc les CD à 15€, je crois à l'époque, les t-shirts le CD à 12, le t-shirt à 15 et des badges, des trucs à genre 3€ les deux ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui c'était assez intéressant de voir le comportement du public parce que il y a beaucoup de gens qui venaient en disant non, le CD, non, je l'ai téléchargé, c'est bon. Par contre, je vais prendre deux t-shirts et qui en fait dépensaient plus. Ils avaient déjà payé leur place de concert et finalement ils se retrouvaient à dépenser plus que simplement le CD, mais finalement c'était plus le t-shirt et les badges qui avaient le plus grand succès, parce qu'à l'époque moi j'étais producteur du groupe, ils m'avaient gentiment proposé de finalement rajouter sur mon contrat les ventes de t-shirts. Et c'était un des premiers contrats 360 de l'histoire. Et donc, bon, il y a ce côté achat impulsif qui peut se faire comme ça. Après, c'est vrai qu'on est dans cette situation en même temps un peu paradoxale, qui est que le CD continue de représenter 90% des chiffres d'affaires de la production musicale. Et en même temps, tout le monde sait bien qu'à terme, il est condamné. Donc, on est aussi un petit peu dans cette... Il y avait eu déjà un épisode comme ça au début des années 80, quand à un moment donné, les gens ont commencé à arrêter d'acheter des vinyles parce qu'ils savaient qu'ils allaient plus tard se mettre à acheter des CD, mais comme c'était un moment où les platines CD étaient encore chères et qu'il y avait peu de CD disponibles qui eux-mêmes en plus étaient chers, on voit bien sur les courbes, il y a eu une crise de la musique qui était considérée comme dramatique et gravissime à l'époque aussi, évidemment, de quelques années où il y a eu ce passage d'une technologie à une autre. Sauf que là, pour la première fois, on sait très bien maintenant qu'il y a rien derrière, finalement. Il ne va pas à moins d'un format innovant tout à fait nouveau, mais on a du mal à imaginer. On pense plus que c'est la fibre optique, à la limite, qui va prendre le relais et qui va permettre d'augmenter la qualité et que ce pis-aller qu'est le MP3, parce que c'est vraiment... Moi, j'ai réécouté beaucoup de cassettes ces derniers temps. MP3, c'est vraiment moins bien qu'une cassette analogique. Donc... Que le MP3 pourra être remplacé par des formats de meilleure qualité, quitte à avoir un système de prix différent. Je pense que là aussi, il y aurait encore. Mais, et ce sera mon dernier point finalement par rapport à ça, l'autre gros dilemme qui se pose dans toute cette histoire-là, il est sur le fait que les gens qui aiment vraiment la musique, c'est-à-dire qui vont faire un achat sans aller jusqu'à l'audiophile, mais qui vont avoir un acte d'achat raisonné en disant voilà, ça c'est un artiste que j'aime bien, je vais soutenir, je vais acheter. C'est pas la clientèle des énormes succès du top 50. Et c'est là où, parce que les artistes indépendants ou débutants sont pas téléchargés parce qu'ils sont pas sur le peer-to-peer. Ils sont pas assez connus pour ça. Et puis après, bon, quand ça vient, ça c'est le problème finalement devient à la fois plus aigu pour l'artiste parce que effectivement ça peut être déplaisant, mais en même temps il est moindre d'une certaine manière. Quelque part, moi je trouve que ça ramène les choses à la vraie valeur du marché, c'est-à-dire que un artiste ça ramène beaucoup de choses au niveau de ce qu'ont toujours été les ventes de jazz ou de classique typiquement qui jamais vu, à quelques rares exceptions près dans le monde, Pat Metheny étant sans doute la plus notoire, des artistes vendent des millions d'albums. C'est pas tellement le propos. Combien de fois, quand on cherche un disque classique, le disquaire vous dit « Ah ben non, ça désolé, c'est épuisé, puis il n'y en a plus chez l'éditeur, ça sera parfait, il y en a... » quelque part, on passe plus dans cette économie-là, et où là, Internet et iTunes constituent plus une chance. Et juste un dernier mot en passant, parce que malgré tout, je crois qu'il faut penser aussi aux producteurs indépendants qui, eux, ont à l'heure actuelle, un problème avec justement ces plateformes qui placent les œuvres sur l'ensemble des plateformes qu'on appelle légales, que moi je préfère appeler commerciales, mais ça c'est une... souvent, ces sociétés-là passent aussi des accords avec des sites de streaming comme Deezer ou Spotify. Et il y a notamment le cas d'un groupement, d'un collectif de producteurs du sud de la France qui représente 150 labels, qui se sont retrouvés avec le contenu du catalogue de ces 150 labels qui s'est retrouvé du jour au lendemain sur Deezer, sans que puisse intervenir dans la négociation à aucun moment, puisqu'ils avaient délégué la représentation, et du coup se retrouvent très surpris, parce qu'il y a une exploitation qui a été faite de cette arrivée massive de titres sur Deezer, ça a été mis en première page, ça a été annoncé, ça a généré énormément d'écoutes, mais je crois que pour 35 000 écoutes générées, les 150 labels ont dû toucher en tout 27 euros, quelque chose comme ça. Donc là encore, il y a une échelle de valeur, il y a une discussion à avoir sur la répartition. Dans les deux sens, hein, je crois que chacun doit faire aussi un bout du chemin. C'est-à-dire que je crois que 35 000 écoutes sur 10 heures en une journée, c'est une chose qui est très bien, mais ça correspond peut-être à une écoute sur RTL, même pas. Hein. Donc il faut là encore rétablir les choses. 35 000 écoutes sur 10 heures, c'est pas 35 000 passages sur TF1 à 20 heures. Et en même temps, il faut aussi que, parce qu'il y a des problèmes du côté des producteurs, essayer de pas dire, ah bah oui, le numérique, c'est plus compliqué, il y a plus d'intermédiaires, chaque vente génère moins, donc à l'arrivée, la répartition fait que finalement l'artiste a vraiment très très peu, là pour le coup encore moins que sur la vente physique, alors qu'a priori, on se retrouverait avec moins de problèmes de distribution, de fabrication, une chose comme ça. Donc là, il y a un équilibre qui pour l'instant est très opaque, et je crois que là encore, il y a vraiment un travail à faire de part et d'autre, pour accepter un principe de plus de transparence, finalement, dans toutes ces choses-là.
Il est vraiment envisagé, ce travail ?
Non, je ne crois pas. Je crois que ça, là encore, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a finalement... je repense à cette émergence des partis pirates un peu partout, parce que je crois que quelque part, il y a une demande citoyenne et peut-être un peu générationnel, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse génération Y qui finalement chaque année, qui sont ceux qui ont grandi avec Internet, ou presque, qui ont eu Internet depuis tout petit, qui chaque année sont des nouveaux électeurs, nécessairement, qui dans, même déjà maintenant, et puis dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, vont remplacer les baby-boomers, dans un premier temps dans les entreprises, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années à la direction des entreprises. Je pense que là, il y a une vraie demande pour finalement que cesse un certain nombre de situations qui sont vécues comme des hypocrisies. Et je crois que les différentes crises, entre guillemets, qu'il y a pu avoir même récemment autour de Frédéric Mitterrand, différentes déclarations, je pense plus à Polanski qu'à son bouquin, témoignent quelque part de cette difficulté à appréhender, à cette sensation un peu imprécise, qu'il pourrait y avoir deux poids, deux mesures. Bon, à un moment donné, deux poids, deux mesures, dans une certaine fourchette, on peut le comprendre, mais quand ça va au-delà du raisonnable, je crois que c'est là qu'il y a un mouvement qui se met en place.
En conclusion, quel est ton souhait, Patrice ? Sera-t-il différent de celui de la dernière émission ?
Bon, finalement, non, pas tellement, parce que je reste extrêmement optimiste sur cet ensemble de choses, parce que moi, je suis témoin par ces hasards de l'existence qui ont fait travailler pendant longtemps comme ingénieur du son, travailler longtemps comme informaticien pour le web, puis de voir aujourd'hui finalement l'émergence de ce parti pirate et les gens qui le composent, même si c'est un joyeux fouillis par moments, mais globalement je suis très optimiste par rapport à toute cette situation-là, même si, effectivement, il y a peut-être un petit passage un peu, qui secoue un peu, même, je ne sais pas s'il est... Je crois que la priorité dans les semaines et les mois qui viennent, ce qui peut être très important, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue qui s'établisse, qu'on arrête les postures, de dire bah, les pirates ils sont tous comme ça, et puis les producteurs ils sont tous comme ça, et puis parce que c'est pas vrai, il y a des tas de sortes de producteurs différents qui ont des points de vue différents, pareil pour les éditeurs, pareil pour les pirates, les internautes, la société dans son ensemble. Et là il y a un début de ça, il y a une démarche qui a été initiée par Jacques Ralit au Sénat il y a quelques semaines, qui normalement doit être un début de proposition de différentes réunions de travail justement sur ces questions-là, qui doit amener jusqu'au mois de juin. Moi, j'attends pas mal de ça, au moins en termes de conclusion, d'essayer d'y voir plus clair, parce que pour la première fois, depuis une dizaine d'années que j'observe ces questions-là, c'était la première fois que je constatais qu'effectivement, toutes les personnes, toutes les parties prenantes au débat étaient rassemblées dans un même lieu. Chacun avait à peu près le même temps de parole, pouvait dire ce qu'il voulait, pouvait être questionné par les autres. Ça, c'était une première, donc ça m'encourage à penser qu'il y aura d'autres choses dans cette direction-là et que le bon sens finira par triompher.
Est-ce que, justement, ce changement arrive plus vite que tu ne le pensais ?
On va voir vraiment dans les mois, parce que maintenant, je pense qu'on va avoir une réponse vraiment dans les mois qui viennent sur l'attitude qui va être justement celle des sociétés de gestion de droits. Qu'est-ce qui va se passer avec les fournisseurs d'accès ? Est-ce qu'on va taxer les fournisseurs d'accès ? Est-ce qu'on va remettre la licence globale ? Bien que Frédéric Mitterrand lui-même ait dit qu'il ne voulait pas entendre que la mission Zelnik proposait ce qu'elle voulait, mais pas la licence globale, parce que... Enfin, dit le ministre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on aurait pu croire qu'une commission, précisément, aurait pu servir à le déterminer, mais bon, manifestement, ce n'est pas l'objet. Là, pour l'instant, ça prend plus. Tout le monde a l'air de se concerter, quand même, pour dire que c'est un échec annoncé. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ?
Un rendez-vous pour un troisième volet ?
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais je n'osais pas le dire au micro.
Voilà, mais de toute façon, nous, on va en parler dans les diverses commissions dans lesquelles nous allons. Toi, tu continues aussi à écouter, discuter. Est-ce que tu arrives à faire passer ton point de vue ?
Disons que je m'exprime chaque fois que j'en ai l'occasion. Après, médiser, il en restera toujours quelque chose.
Très bien. Vous avez encore d'autres questions ou pas du tout ?
Non, en guise de conclusion bis, est-ce qu'on a une idée du coût engendré par Hadopi 1, Hadopi 2, c'est-à-dire le coût des parlementaires, le temps passé, enfin toutes les commissions qui ont été faites autour de ces trucs-là, juste pour avoir une idée de...
Ah ben, je crois que je pense pas qu'on puisse le mesurer comme ça, parce que la démocratie n'a pas vocation à être rentable, j'ai envie de dire, ni à être efficiente. Par contre, mais là j'ai pas les chiffres en tête. Effectivement, le coût des mesures envisagées a été évoqué, resté extrêmement flou parce qu'on sait pas bien. Il manque aussi des décrets d'application, parce qu'il se pose le fameux problème des zones qui sont pas tout à fait dégroupées, dans lesquelles les fournisseurs d'accès, dans l'état de l'art, ne peuvent pas couper Internet sans couper en même temps le téléphone et la télé. Ça va poser des tas de problèmes. On sait pas combien ça va coûter. En Angleterre, les études ont été faites où les parlementaires anglais sont arrivés à la conclusion que les mesures de la riposte graduée coûteront plus cher que ce que les industries du disque disent perdre chaque année. Mais en gros, voilà, on doit être à peu près dans cette mesure-là.
Donc finalement, ils voudraient mieux payer les producteurs.
Alors ça, c'est ce que dit... Il y a une société allemande qui a décidé d'elle-même de faire peur aux internautes, de faire la riposte graduée elle-même. C'est-à-dire qu'elle prend les adresses IP qu'on peut trouver et elle envoie simplement un mail une fois qu'elle retrouve la personne. Alors je ne sais pas comment où se place le processus judiciaire là-dedans. Ça serait intéressant de leur poser la question. Mais ils retrouvent les gens... Il leur envoie un mail en disant, voilà, envoyez-nous une amende. Enfin, vous avez été surpris en train de télécharger telle et telle chose. Envoyez tel montant à telle adresse. Ça peut donner une idée à des escrocs, d'ailleurs, ça, je pense. On en verra fleurir avec la loi Hadopi quand elle sera promulguée. Et là, manifestement, il y a une proportion de la population suffisante pour payer. Alors qu'en fait, dans la pratique, ils ne peuvent rien faire si les gens ne payent pas. Donc ils disent, les gens qui ne payent pas, il ne se passe rien. C'est un appel au don, mais qui est présenté sous forme d'une amende quand même. Et donc, ils essayent de fonder un business model là-dessus, en disant que finalement, pour l'industrie du disque, le piratage pourrait être tout à fait rentable s'il suffit de demander gentiment aux gens de payer quelque chose. Et puis, y en a plein qui sont d'accord pour le faire. Pourquoi pas ? Mais ça relève plus de l'escroquerie que de la décision de justice, à mon avis.
Rendez-vous pour un troisième volet dans quelques mois, la suite de ces événements, de cette fameuse loi Hadopi. Merci beaucoup Patrice d'être venu pour nous en parler.
Merci à vous d'avoir accueilli une fois encore.
Bien, bonsoir à tous. Ici Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.